Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La répression de la traite des personnes en droit congolais. Que dit la loi au sujet de la traite des personnes en RDC? Nous en parlons dans Droit et citoyenneté d'aujourd'hui. Une des violations des droits humains, la traite des personnes passe parfois inaperçue faute de connaissances. Le magazine de promotion de vos droits et devoirs veut mettre fin à cette ignorance et sensibiliser au respect de la dignité humaine, étant donné que la traite des personnes n'est autre que la maltraitance de l'homme.
Que signifie la traite des personnes? Quelles sont ces différentes formes? Comment est-elle réprimée en droit congolais? Telle est la problématique qu'aborde ce magazine. Droit et citoyenneté est coordonné par Jeff Ngoï Moulonda et présenté avec Niklette Kayeye.
Sous la supervision de Jean-Marc Matoua qui nous fait l'aile. Bienvenue à tous. Répression de la traite des personnes en droit congolais.
Un projet de loi sur la traite des personnes a été voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il passe maintenant en seconde lecture au Sénat avant sa promulgation. Elle forme le soubassement, la boussole de l'Agence de prévention et de lutte contre la traite des personnes, APLTP.
Cette loi en gestation, Niklette, a été longtemps attendue. Nous allons découvrir son intérêt. Elle a même fait l'objet de plusieurs ateliers de formation. Pour en parler, nous recevons dans la première partie de ce magazine la coordinatrice de l'APLTP, Madame Meta Kassanda, Rebecca.
Bon, nous avons accueilli cet événement comme on accueille la naissance d'un enfant. Toute naissance apporte la joie dans la famille. Et pour l'agence et le gouvernement congolais, c'est un grand pas, puisque c'est depuis 2006 que la RDC est appartie à la Convention de Palerme et au protocole contre la traite des personnes. Et ça fait aujourd'hui 14 ans que maintenant la RDC vient d'avoir sa loi. Et cette loi, nous l'avions préparée, nous l'avions discutée d'abord au niveau des acteurs. Elle a été transmise au gouvernement où elle a été traitée par la commission des textes du gouvernement.
Qu'est-ce que cette loi apporte à l'APLTP?
Cette loi apporte beaucoup de choses. La première des choses, elle nous permet d'améliorer notre rapport, puisque nous avons des rapports périodiques que nous produisons et que nous transmettons aux autorités d'observation. Il y a le Haut Commissariat aux droits de l'homme, il y a ONU DC, il y a aussi
L'OIM.
Non, pas l'OIM. L'OIM ne peut pas. N'est pas autorité d'observation. Il y a l'Assemblée générale des Nations unies et le département d'État américain. Et maintenant que la loi est là, nous avons éliminé l'obstacle majeur à la lutte contre la traite des personnes. Cette loi vient améliorer ou enrichir notre code pénal, puisqu'elle a pris en compte toutes les formes de traite des personnes qu'on a maintenant érigées en infraction.
Oui. Qu'est-ce qui va se passer désormais avec cette loi?
Il y a un principe. Il n'y a pas de peine sans loi. Donc, nos juridictions ne pouvaient pas prononcer un jugement de condamnation pour traite des personnes puisqu'il n'y avait pas de loi. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Les juges condamnaient les actes puisque ces actes sont aussi réprimés sous d'autres appellations. Mais maintenant que la loi est là, les peines sont très sévère. Et c'est une loi répressive qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale. Et cette loi prévoit des circonstances aggravantes.
Comme quoi, par exemple? Pouvons-nous aussi avoir une idée sur ces grandes articulations?
Par exemple, s'il y a entrave à l'administration de la justice, puisque beaucoup de trafiquants font des entraves à la justice. Trafiquants ou leurs complices. En ce moment-là, ils sont poursuivis pour entrave. et c'est une circonstance aggravante. Lorsque vous êtes en matière de traite, vous avez par exemple soumis une personne à un esclavage domestique et que vous continuez à faire donc des menaces, que ce soit à elle ou à les membres de sa famille, que si vous osez saisir les juges, si vous osez dénoncer, vous allez voir ce qui va vous arriver. À ce moment-là, on fait entrave. Il y a aussi entrave lorsque on menace les juges.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
Puisque les trafiquants de traite des personnes sont des personnes très dangereuses. Ils sont comme les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes, les blanchiments de capitaux aussi. Ce sont des gens qui travaillent de concert en réseau.
Vous m'amenez à vous reposer une question que je vous ai déjà reposée plusieurs fois. Est-ce que les gens se posent toujours aussi cette question-là? Ils ne comprennent pas ce que c'est la traite des personnes. Comment il s'est défini? Si vous pouvez encore nous remémorer la mémoire en nous parlant des différentes formes de la traite de personnes.
Oui. La traite de personnes, en bref, c'est une infraction qui se commet sur un processus. Il y a d'abord un fait d'enlèvement. On enlève quelqu'un. On transporte cette personne et on l'amène quelque part où on l'héberge. Tout ça se fait contre son gré. On l'héberge. Quel est l'objectif poursuivi? L'exploiter afin de se procurer de l'argent. Et comment on peut exploiter une personne? C'est là où ressortent les formes de la traite. On peut exploiter une femme en l'obligeant à faire la prostitution. Et le fruit de la prostitution, c'est le trafiquant qui le perçoit. Ou on fait faire des travaux à quelqu'un contre son gré. Par exemple, les jeunes gens qu'on enlève, qu'on recrute dans les forces négatives, donc dans les groupes armés. Ces jeunes gens sont utilisés par les trafiquants. Il y a aussi l'utilisation des enfants dans les mines et carrières. Et ça, on les vit dans toutes nos zones minières, là où on fait l'exploitation artisanale. Les enfants sont utilisés, puisque c'est une main d'œuvre facile. Il y a aussi l'enlèvement pour vente.
Nous avons le trafic d'enfants, le trafic d'êtres humains.
C'est très, très commis dans notre pays. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil. Je ne dis pas la ville où on a attrapé un monsieur qui avait déjà pris presque une dizaine d'enfants. C'était pour quel objectif? Aller les vendre auprès des trafiquants. Donc, c'est quelqu'un qu'on envoie prendre les enfants, enlever et aller vendre. Il y a eu un cas qui s'est passé ici dans la ville de Kinshasa, où dans un orphelinat, les gens se sont introduits pour demander qu'on leur donne des enfants. Ils cherchaient des jumeaux, mais le responsable de l'orphelinat n'avait pas des jumeaux. Puis ils ont laissé. Et ces personnes sont revenues utiliser les enfants qui étaient dans l'orphelinat pour leur voler des bébés.
Ce sont des cas illustratifs concrets qui se passent ici chez nous.
Donc ces orphelins-là, qui étaient hébergés dans l'orphelinat, sont devenus complices des trafiquants. Ils ont volé les enfants et ils ont vendu à ces trafiquants à 100 dollars.
Mais quand l'affaire est portée devant vous, qu'est-ce que vous en faites?
Le dossier est au niveau de la justice. C'est-à-dire, lorsque l'information nous arrive, que ce soit par la ligne verte 129, que ce soit par autre forme, nous saisissons l'autorité compétente. Par la ligne verte, nous orientons la personne vers l'autorité compétente. C'est toujours la justice pour que les trafiquants puissent être traqués et arrêtés. Et nous saluons l'arrivée de la loi puisque ça va aider les enquêteurs et les juges à condamner, arrêter et condamner ces personnes. Et pour anticiper, nous avons lancé dans la ville de Kipit la formation des enquêteurs en investigation.
Oh, tango musala kotongo baninga utakala poina bato konuka basa bana baninga Musala kotongo baninga utakala koina bato konuka basabana baninga Lusumba ya
Citoyenneté se poursuit. Nous parlons de la répression de la traite des personnes en droit congolais. Est-ce qu'on peut savoir ce que l'APLTP a déjà réalisé depuis son installation pour prévenir et lutter contre la traite et ce qu'elle compte faire dès qu'elle sera en possession de sa loi?
Nous parlons à présent du bilan et des perspectives pour cette agence, toujours avec sa coordinatrice, Madame Meta Cassandra Rebecca.
L'APLTP fait le travail de sensibilisation depuis 2020. Novembre, nous avons lancé les campagnes de sensibilisation. Mais le pays est très vaste. Nous travaillons étroitement avec la justice. Mais on avait la difficulté puisque les textes n'existaient pas. Et quelques juges appliquaient les dispositions du droit international en matière de traite des personnes. Ils appliquaient les dispositions du protocole.
Est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui quelques cas des gens
qui s'y retrouvent? Dans la ville de Kinshasa, vous avez eu le dossier des Chinois, des filles chinoises qui étaient exploitées par la prostitution. Il y a eu la condamnation, ils ont fait appel, ils sont en prison.
Et les victimes ont été indemnisées lorsqu'on est victime.
Lorsqu'on est victime,
on a été contraint, c'est contre sa volonté.
Oui.
Et après la condamnation, qu'est-ce qu'on fait de ces victimes?
Après la condamnation de l'auteur, la victime a droit à une indemnisation. On peut faire cette réparation à partir des biens du crime. Donc, on peut saisir les biens du criminel, les vendre et indemniser les victimes. Tout comme l'État peut mettre à disposition un fonds spécial pour l'indemnisation des victimes. Mais vous connaissez la situation de notre pays.
À part la loi, est-ce que vous avez tous les moyens pour bien mener votre politique?
La loi prévoit la condamnation aux dommages intérêts. Mais maintenant, il faut exécuter le jugement. Et pour l'exécuter, on l'exécute sur les biens du trafiquant. Et quand le trafiquant n'a pas de moyens, de biens, on se retourne vers l'État. Pour que l'État puisse indemniser. Et pour que l'État indemnise, il faut qu'on crée un fonds spécial pour ça et qu'on l'alimente.
Tout cela est prévu par la loi.
C'est prévu dans le plan d'action de la PLTP. C'est une des mesures politiques qui doit être prise. Mais on ne pouvait pas mettre la charrue devant le bœuf. Il faut d'abord que la loi soit promulguée pour que la mesure politique sur la création du fonds soit prise.
Quelles sont les actions que vous prévoyez? Les grandes stratégies?
La grande stratégie que nous avons, puisque la loi d'ici la fin de l'année, on va avoir la loi, ça c'est déjà une garantie. Il faut que la justice soit à même de l'appliquer. C'est pour ça que nous avons commencé à former les enquêteurs et on va former aussi les juges et les avocats pour que dès que la loi est là, que personne ne puisse dire qu'il n'était pas formé. Nous avons en chantier un guide pratique pour les acteurs de la justice et ce guide va compléter la formation qu'on est en train de dispenser.
Un petit bilan et les perspectives d'avenir de la PLTP.
On est là depuis 3 ans. C'est depuis 2019, avril 2019, que l'agence existe. Nous avons pris fonction en mai 2019. Je dirais le 7 mai. C'est le jour où j'ai été notifié. Ce que nous avons fait en ces 3 ans, nous avons d'abord doté la République d'une stratégie de lutte contre la traite des personnes. Une stratégie nationale. Nous avons fait élaborer et valider un plan d'action pour 5 ans. Ce plan a commencé à courir depuis le 1er janvier 2020 et va se terminer le 31 décembre 2024. Comme troisième résultat, nous avons doté la RDC d'une stratégie de communication. Et cette stratégie de communication est dotée d'un plan opérationnel. Nous avons aussi produit un mécanisme de référencement des victimes. Pourquoi? C'est pour que chaque acteur, puisque c'est une chaîne, que chaque acteur à son niveau sache qu'est-ce qu'il doit faire et s'il n'est pas à mesure de le faire, à qui peut envoyer la victime. Et lorsque la victime est à ce niveau-là, qu'est-ce que les autres maillons de la chaîne peuvent faire puisque tout ce qu'on fait, c'est pour la sécurité de la victime et c'est pour la prise en charge de la victime. Nous avons aussi créé une ligne verte 129 pour permettre aux victimes, aux témoins, à la population de dénoncer les cas de traite.
Ce numéro vert-là, il est accessible à tout le monde?
Il est accessible sur toute l'étendue de la République.
Avez-vous un site où on peut facilement accéder, si on peut avoir toutes les données relatives à la PLTP?
Notre site internet est en chantier. Je pense que d'ici là, on va voir le site internet. En dehors de ceci, nous avons formé les acteurs de première ligne. Qui entendons-nous par acteurs de première ligne? Ce sont les magistrats, les OPJ, les avocats, les acteurs de la société civile, les assistants sociaux, les journalistes, les chefs coutumiers, les autorités politico-administratives. Et nous avons commencé depuis mardi la formation spécialisée pour les enquêteurs. Nous avons une base de données où on peut retrouver tout ce qui est fait. Donc, on peut y trouver même des jugements. Et cette base de données est reliée à la base de données de la SADC. Mais ce n'est pas suffisant. Nous allons continuer tout au long des 5 années du plan. Nous continuerons à sensibiliser la population. Nous avions prévu d'avoir des centres d'hébergement pour les victimes, puisque les victimes de traite ne peuvent pas être mélangées avec d'autres victimes des infractions qu'on a. Mais par manque de ces centres, nous logeons les victimes dans certains centres où leur sécurité n'est pas tellement assurée.
Une chose est d'avoir une loi, une autre c'est de l'appliquer. Ce pays a beaucoup de textes, de beaux textes, qui souffrent souvent d'application. Quelle garantie vous donnez que cette loi sera réellement appliquée?
Non, nous, la garantie, c'est la formation que nous donnons à ces acteurs judiciaires. Vous avez dit qu'on vient de lancer la formation des enquêteurs, et parmi les enquêteurs, il y a les OPJ et les magistrats du parquet, les magistrats des auditorats militaires, qui sont les enquêteurs.
Donnez-moi ça jusqu'au matin, donnez-moi ça jusqu'au matin,
jusqu'au matin, bébé.
Surtout il y aura pas de tabou, allez montre-moi tes tatous,
tous tes tatous cachés près de moi, viens près de moi, bébé. Nala leli lele lele lele,
ya
leli lele lele lele,
ya
leli lele lele lele, ya leli lele lele.
La traite des personnes en droit congolais. Jeff, après avoir écouté la coordonnatrice de la PLTP, nous recevons à présent dans cette seconde partie notre dernier invité, un magistrat. Il est coordonnateur adjoint de l'agence.
Oui, avec Eric Odon Koukoukiesse Nzalabar, magistrat et coordonnateur adjoint de la PLTP. Nous abordons l'aspect relatif à la répression par les instances judiciaires de la traite des personnes. Koukou Kies nous parle également de l'intérêt et des particularités de la loi de répression de la traite des personnes.
Que dit la loi en matière de répression sur la traite des personnes? Évidemment, avec l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole additionnel à la Convention sur la criminalité transnationale organisée, tendant à prévenir, à poursuivre et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, avec cette adhésion-là depuis 2006, il n'y avait pas encore une loi spécifique qui permettait à la justice congolaise de pouvoir réprimer de manière systématique toutes les formes de traite de personnes perçues comme des infractions. Mais à travers les lois existantes, et là je pense notamment à la loi portant protection de l'enfant qui a été promulguée en 2009, je vois également la loi portant sur les violences sexuelles, loi qui a amené à modifier le code pénal livre 2, en insérant plusieurs formes d'agression sexuelle et plusieurs formes de violence sexuelle sur le genre. Avec ces deux lois de 2006 et de 2009, plusieurs formes de traite des personnes liées notamment à l'exploitation sexuelle et au trafic surtout des enfants, ont été érigées comme des infractions et étaient déjà poursuivies. Quoique en République démocratique du Congo, on n'avait pas encore une vue globale sur la notion de la traite des personnes perçue comme une infraction. Donc, lorsque nous relevons l'article 162 de la loi portant protection de l'enfant, il y a deux littéraires. Le premier parle de la vente des enfants, donc c'est une forme de traite des personnes brute. Et le deuxième littéraire parle du trafic des enfants, donc une forme assez généralisée. Dans le fond de la loi sur la protection de l'enfant, nous avons plusieurs infractions qui sont considérées comme des formes de traite des personnes, telles que l'enrôlement d'un enfant dans un groupe armé. Donc c'est également une forme de la loi portant protection de l'enfant. En ce qui concerne la protection des enfants, a prévu des infractions de traite des personnes dans le cas où ça concernait comme victime des enfants. Maintenant, lorsqu'on recourt un peu plus bas, en 2006, nous avons la loi sur les violences sexuelles qui a inséré plusieurs formes d'agression sexuelle, dont certaines sont réellement des formes de traite des personnes vues comme exploitation sexuelle. Nous avons l'esclavage sexuel. Et comme vous le savez, quand on parle de traite de personnes, on l'arrive à l'esclavage du temps moderne. Et lorsque déjà il y a une prévention qui parle d'esclavage sexuel, je crois que cela n'appelle pas de commentaire. C'est une infraction qui est prévue dans le code pénal et qui a été, tel qu'il a été modifié par la loi portant violence sexuelle. Nous avons également, dans l'article 174J du code pénal livre 2e, ce qu'on appelle une incitation à l'exploitation sexuelle. C'est sur base de cette infraction que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avait en flagrance condamné tous les trafiquants et bourreaux qui utilisaient des jeunes chinoises importées de la Chine afin qu'elles puissent se soumettre à une vague d'exploitation sexuelle tarifée ici en République démocratique du Congo. C'est une affaire qui a défrayé la chronique. Et donc là, en agissant ainsi, le tribunal de grande instance a fait prévaloir cette infraction comme étant l'une des formes de traite des personnes, même si le code pénal ne l'avait pas dit. Mais l'intérêt pour la République démocratique du Congo, l'intérêt manifesté par l'Assemblée nationale, d'avoir une loi spécifique sur la traite des personnes, cet intérêt tient lieu du fait que, malgré la présence des textes disparates, je peux même citer le code du travail, parce que l'article 2.3 du code du travail parle du travail forcé et relève la prohibition du travail forcé. L'article 4 parle des pires formes de travail. On les cite. Elles sont même, ces pires formes de travail des enfants, elles sont reprises avec beaucoup d'extensions au niveau de la loi portant protection de l'enfant. Donc ce sont des formes de traite des personnes qui existaient, mais dans des textes épars. L'intérêt maintenant au niveau de la République démocratique du Congo, c'était d'avoir un texte.
Donc qui devait... c'est ça la particularité de cette loi.
Tout à fait.
Elle les ramène tout à
c'est de les ramener
un seul,
dans un texte
unique. Dans un texte,
en les globalisant.
Une loi spécifique.
Mais en ajoutant également certaines formes de traite des personnes qui n'ont jamais été prises en compte par le droit positif congolais, c'est-à-dire par les lois existantes. Je prends l'exemple du trafic des organes. On sait que c'est un phénomène criminel qui existe. Il y a des réseaux là-dessus, mais il n'y a pas un texte pénal en République démocratique du Congo qui incrimine cette pratique comme une infraction et qui l'a sortie d'une peine exemplaire. Il n'y en a pas. Donc, on devrait donc insérer cela comme infraction dans un texte de loi. C'est ce qui vient d'être fait avec le vote de la loi portant modification du code pénal et insertion des infractions en matière pénale, de traite des personnes, que la Chambre basse du Parlement vient de réaliser. Et au niveau de l'ALPLTP, nous saluons ce vote qui a été réalisé à l'unanimité, 0 voix contre. Les grandes articulations, c'est d'abord au niveau de la résurgence du principe qui est consacré par le code pénal, à savoir la légalité des délits et des peines. On ne peut pas parler d'une infraction dans notre pays, la République démocratique du Congo, tant qu'il n'y a pas une loi qui l'a sortie comme étant une infraction, qui l'incrimine comme telle. Donc, le Parlement, par la Chambre basse, a réalisé, a appliqué ce principe-là en votant cette loi, ce qui fait que dans son articulation spécifique, on trouvera plusieurs dispositions dans cette loi qui modifie le code pénal comme étant des infractions en part entière, mais qui viennent renforcer l'arsenal pénal congolais en y ajoutant des infractions qui ont pour trait essentiel de réprimer les différentes formes de traite des personnes, c'est-à-dire les différentes formes d'exploitation humaine. C'est le cas de la mendicité forcée. Ça n'a jamais été une infraction. La mendicité existe comme infraction à la République démocratique du Congo, mais pas la mendicité forcée, cette fois-ci à sortir de peine. Nous avons également l'enrôlement forcé dans les groupes armés, tant des enfants que des personnes adultes, parce que dans la loi portant protection de l'enfant, on ne parlait que des enfants. En dehors de cela, nous avons la prostitution pour autrui, ou la prostitution forcée. En dehors de cela, nous avons également le trafic des organes. Il s'agit des organes vitaux, le cœur, le rein. Ce trafic-là a été érigé comme une infraction par cette nouvelle loi qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale. Donc il y a, de manière typologique, plusieurs infractions nouvelles qui viennent de naître et qui viennent de prendre corps dans les nouvelles dispositions du Code pénal. Et pour bien expliquer les choses, il s'agit essentiellement de la modification de l'article 67 du Code pénal livre 2e. Cet article, dans son ancienne formulation, prévoyait uniquement 3 infractions, à savoir l'enlèvement, l'arrestation arbitraire et la détention illégale. Et lorsqu'on recourt à l'article 3 du protocole qui définit la traite des personnes, on se rend compte que le mode le plus prisé en matière de traite des personnes, c'est justement le mode opératoire, je voulais dire, c'est l'enlèvement. Donc on est parti de ces dispositions de l'article 67 qui relèvent ce mode opératoire spécifique de la traite des personnes pour créer des littéras, donc d'autres dispositions légales, qui insèrent alors les différentes formes de traite des personnes dont je viens de donner quelques exemples.
Don't go, sir. ingombe na wendo tongosa e
ingombe na wendo tongosa.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi
La répression de la traite des personnes en droit congolais.
A-t-on des faits illustratifs portés devant les instances judiciaires et réprimés?
Outre des situations illustratives déjà évoquées avec la coordinatrice de l'appel TP, le magistrat épingle également d'autres faits érigés en infraction par la loi.
Il y a même une infraction assez spécifique, c'est la rétention de titres de voyage ou de séjour à fin d'exploitation. Hein, c'est le cas qui arrive souvent lorsque, souvent dans certains musiciens, pour empêcher que les artistes musiciens faisant partie de l'orchestre ne puissent bouger lorsqu'ils voyagent à l'étranger, de retenir, pour une raison ou une autre, leur titre de voyage ou leur titre de séjour. Et ce sont des réalités que nous vivons également ici en République démocratique du Congo pour des personnes de nationalité étrangère qui viennent travailler ici. On remarque de plus en plus, et par les investigations réalisées par la police, qu'il y a des étrangers qui vivent en République démocratique du Congo, mais dont les passeports sont détenus par leurs employeurs, afin de les empêcher de faire quoi que ce soit, et qui sont maintenus un peu comme des esclaves. Donc ce sont là des nouvelles infractions qui font corps avec le code pénal, et qui seront sévèrement réprimées parce que les sanctions prévues en cas de poursuite sont des sanctions assez élevées.
Le taux de la peine peut-être de combien?
Le maximum est de 20 ans.
20 ans.
Dans la fourchette de la charge pénale prévue pour les différentes infractions. Donc la plus haute expression pénale est de 20 ans. Donc vous comprenez qu'on est resté dans la même logique de la violation grave des droits de l'homme comme on l'a observé en 2006 en ce qui concerne les agressions sexuelles et les violences sexuelles sur le genre. Donc on est resté sur la même optique afin de décourager, sinon d'annihiler, ces phénomènes criminels qui tendent à réduire un homme à un état d'exploitation servile.
Quand même à chosifier la personne.
Tout à fait.
Épinglons juste une seule infraction, la mendicité forcée. Comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer que la mendicité est forcée lorsqu'on trouve des mendiants qui se livrent à cette pratique de manière volontaire?
Je vous ai dit qu'en République démocratique du Congo, il existe déjà une infraction qui est incriminée, à savoir la mendicité tout court, mais qui n'est pas assortie d'une peine d'emprisonnement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on trouve qu'une personne, en raison des vulnérabilités sociales, il n'a pas de revenus, il n'a pas d'activité professionnelle, il se livre donc à la mendicité pour la survie. On estime que ça, ce n'est pas commettre une infraction contre qui que ce soit. Mais étant donné que son état est un état de fébrilité, de vulnérabilité, il appartient maintenant à ce moment-là au gouvernement, donc à l'État congolais, de prendre en charge ces types de personnes. C'est pourquoi on a pensé, lorsqu'on a érigé cela en infraction, on a pensé à des mesures que le gouvernement d'accompagnement devait prendre comme sanction, mais pour accompagner ces personnes, soit à leur resocialisation, en leur trouvant du travail, soit à leur formation à des métiers beaucoup plus accessibles. Donc c'est possible. Mais la mendicité forcée, la différence avec la première que je viens de développer, c'est qu'une personne se livre à la mendicité, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il y a un mentor, il y a un bourreau, si vous voulez, un trafiquant, qui le pousse à le faire, non pas pour son intérêt, non pas pour l'intérêt du mendiant, mais pour l'intérêt du mentor. Et généralement, c'est une infraction qui se commet par des personnes qui commencent par enlever des enfants, parce que généralement, la mendicité forcée, les victimes sont des enfants. Donc, on commence par enlever des enfants, à les écarter de leur milieu naturel, et à les amener dans une zone, ou dans une région, ou dans une province, dont ils ne maîtrisent pas la langue, ou difficilement la langue, où ils n'ont personne d'attache au niveau de la famille. Donc ils sont à la merci du bourreau, ils sont appelés, obligés à faire ce que le bourreau leur demande de faire. C'est dans ce contexte-là que l'on conçoit cette infraction de mendicité forcée. Lorsque vous vous apercevez à travers les rues tous ceux qui mendient, généralement ce sont des enfants qui mendient, parce qu'ils sont poussés par des personnes adultes, généralement des enfants qui sont sans domicile fixe, donc qui vivent déjà dans un état de fébrilité, de vulnérabilité avancée, donc qui n'ont presque pas le choix que de faire ce qu'on leur demande de faire, afin de pouvoir se retrouver. Et c'est dans cette logique-là qu'on parle de la mendicité.
Mais
donc la personne qui mendie est elle-même victime de la personne qui le pousse de manière forcée à mendier. Et beaucoup d'enfants qui sont enlevés, ce sont des investigations que nous avons quand même menées avant que la loi ne vienne, qui sont enlevés soit dans le pool Malebo, soit de l'espace Kassai, et qui sont ramenés ici, sont soumis à la mendicité forcée afin d'arrondir la tirelire de leur bourreau. Et avec cette infraction, nous allons de manière très efficace et même sur un fond juridique bien articulé, poursuivre toutes les personnes qui s'emploie à exploiter les enfants dans cette forme de traite de personnes qui est la mendicité forcée.
Oui, vous-même, vous avez relevé le fait que peut-être c'est la pauvreté, le manque du travail, ça les pousse à se mettre dans une telle situation. Donc là, c'est l'État qui doit trouver de l'emploi à ces gens peut-être pour mettre fin à cela. Donc il faut combattre la cause. Mais il n'y a pas seulement les enfants. Quand vous êtes sur le boulevard, il y a même des adultes aussi qui se livrent à cette pratique.
Tout à fait.
Les non-voyants qui se font conduire et guider par des enfants.
Tout à fait, oui.
Vous les mettez dans quelle catégorie?
On y réfléchit. Lorsqu'on parle de la traite des personnes, et sur le plan de statistiques d'ordre international, les plus grandes victimes, en premier lieu, ce sont des femmes, parce que à large spectre, c'est l'exploitation sexuelle qui est la plus en vue, et après ce sont les enfants. C'est pourquoi dans le protocole on dit tendant à prévenir, à poursuivre et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Donc on commence par les femmes. L'exploitation sexuelle occupe la grande place et ça demande à ce que la PLTP puisse avoir un œil assez très ouvert là-dessus. Mais alors, le phénomène que vous venez d'évoquer, c'est un phénomène de guide mendiant. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans la logique de la mendicité forcée ou bien que l'on est dans la logique de la mendicité tout court. Dans le phénomène de guide mendiant, le guide mendiant, c'est l'enfant qui sait voir, qui a tous les membres physiques de son corps en état, mais qui guide une personne vivant avec handicap. Et généralement, ce sont des personnes qui souffrent de la cécité, donc qui ne voient pas. Généralement, dans ce rapport de guide mendiant, donc il y a un guide, il y a un mendiant, généralement la personne qui est guidée est une personne qui vit avec handicap. Donc on veut obtenir des personnes auprès de qui on va mendier, une sorte de les amener à s'apitoyer face à l'évidence d'une personne qui vit avec handicap et face à l'évidence de la vulnérabilité de l'enfant qui est le guide mendiant. Donc on veut doublement amener la personne qui est censée donner quelque chose à se retrouver devant ces deux états de vulnérabilité et donc à pouvoir remettre quelque chose. Est-ce qu'on peut concevoir la mendicité forcée dans cette logique? C'est possible. Ça peut être possible si le guide mendiant est à la merci de la personne vivant avec handicap. Mais dans le deux cas, parce que lorsque souvent vous vous promenez à travers la ville, je pense que là je parle de manière assez empirique, généralement en dehors de ceux qui mendient, mais les personnes vivant avec handicap ont toujours de jeunes gens, généralement mineurs, qui les conduisent un peu partout à travers la ville, soit pour aller mendier, soit pour aller, pour certains qui travaillent. Mais dans beaucoup de cas, on retrouve également des personnes vivant avec handicap qui ont un comportement assez agressif sur ces enfants, qui les battent. Alors si nous nous retrouvons devant cette logique, même si ces personnes vivent avec handicap, on peut déjà être dans la logique d'une personne qui est traitée comme un esclave, d'une personne dont on se sert comme guide pour aller vers la mendicité, mais de manière forcée. Quand on dit de manière forcée ou bien en abusant de sa vulnérabilité, on dit, bon, voilà, vous allez me guider, nous avons demandé, parce que vous n'avez rien, moi je vis avec mon handicap. On peut concevoir cette infraction si le guide ne le fait pas de sa propre volonté. Et généralement, lorsqu'on parle des personnes mineures, vous comprenez déjà qu'un enfant, lorsqu'il agit dans ce sens-là, ce n'est pas de son gré qu'il le fait, c'est soit son parent qui vit avec handicap qui le pousse à le faire, ou soit il se retrouve dans une situation où il n'est pas avec son parent, mais une personne qui vit avec handicap, et les deux se retrouvent dans un état de vulnérabilité sociale, donc ils vivent dans la rue, Et donc, ils conçoivent cela pour obtenir la mendicité. Mais évidemment, pour résorber ce problème de mendicité en général, je crois que l'État devra intervenir à travers les gouvernements qui ont la compétence sur la matière, genre les familles et autres, afin de pouvoir prendre en charge toutes les personnes vivant dans un état de vulnérabilité sociale et donc qui ne peuvent ni manger ni trouver du travail, et généralement des personnes qui vivent avec handicap. Je sais qu'il y a un texte en la matière, mais je pense que la République démocratique du Congo, à travers ce texte, a prévu des mécanismes idoines pour que les personnes qui vivent avec handicap, en particulier les militaires qui ont été au front, puissent être prises en charge par les services de l'État.
Lorsqu'on se retrouve dans une telle situation, là, le guide mendiant est la victime et le mendiant aussi est la victime.
Et si nous nous retrouvons dans une situation de victimisation liée à la vulnérabilité sociale des personnes concernées dans ce couple-là de guide mendiant, le guide mendiant personne physique normale et avec une personne physique vivant avec handicap, à ces moments-là, on ne saura pas relever à juste titre l'infraction de mendicité forcée.
Là,
mais lorsqu'on est dans
travail.
Le rapport, chaque fois qu'il y aura un rapport entre une personne qui est poussée à faire la mendicité contre son gré, avec une personne qui en tire profit, si ce rapport-là est établi, quel que soit l'état de la personne, même s'il vit avec handicap, là nous sommes dans la logique d'une mendicité forcée, et donc la répression devra être appliquée conformément à la loi qui vient d'être votée.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit
et citoyenneté.
Comment se fait en pratique le travail de l'APTP? Vous êtes là pour détecter les infractions, vous enquêtez, après vous faites le rapport à la justice. Quel type de passerelle existe entre l'APTP et la justice, les instances judiciaires?
Cette question, elle est à la fois importante, elle est même pertinente. L'APTP, telle qu'elle a été créée par l'ordonnance numéro 19-13-017 du 22 avril 2019, par la plume du chef de l'État, a été créée pour assurer ou coordonner toutes les interventions, tant dans le volet préventif que dans le volet répressif, en matière de traite des personnes. Le rôle de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, ce n'est pas de prendre la place de la justice. Du reste, dans la structuration de l'APLTP, il y a deux organes clés. Il y a la coordination, composée de 3 coordinateurs, coordonnateur et 2 coordinateurs adjoints, et la coordonnatrice et 2 coordinateurs adjoints. Mais nous avons également un organe clé qu'on appelle la commission technique restreinte, qui regroupe autour de la coordination ou avec la coordination tous les experts des différents ministères du gouvernement qui peuvent intervenir en matière de traite des personnes. On y retrouve des experts du ministère de la Justice, ceux du ministère de l'Intérieur, là je vois la police, vous voyez, la police intervient déjà. On retrouve également les experts du ministère des Droits Humains, et je tiens à relever à l'attention des auditeurs et des auditrices qui nous suivent que le projet de loi qui vient d'être voté, ça a été préparé par l'APLTP, mais finalisé au niveau du ministère des Droits Humains. Et donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le produit du gouvernement qui a été transmis par à travers un projet de loi pour modifier le code pénal. Donc vous voyez cette symbiose-là. C'est la volonté du chef de l'État de vouloir qu'il existe une structure, parce que c'est conforme évidemment au protocole sur la traite des personnes, une structure nationale qui est là juste pour coordonner ces activités. Maintenant que nous avons une loi et tous les experts, je n'ai même pas tout cité, c'est-à-dire nous avons des experts de la DGM, des FRDC, la justice militaire, du ministère du Travail, là je vois le travail forcé. Donc cette coordination-là permet à l'agence de pouvoir détecter tous les cas de traite des personnes dans toutes ses dimensions, tant sur le plan sociologique que sur le plan professionnel, et de pouvoir les orienter vers des organes de l'État qui seront capables non seulement de les prévenir, mais capables également de prendre en charge les victimes, d'assurer la protection des victimes et même des témoins, et au finish, de poursuivre et de faire condamner les personnes que nous considérons comme étant soit des trafiquants, soit des bourreaux, ou soit des menteurs. C'est-à-dire les auteurs de toutes les infractions qu'on peut appeler traite des personnes. Donc le rôle de l'agence, c'est de coordonner toutes ces activités afin de prévenir la traite des personnes, si c'est possible, d'aviser les victimes potentielles de la traite des personnes à ne pas tomber sous le piège ou devant le traquenard des bourreaux. Et si cela arrive, d'assurer non seulement la protection des victimes, mais de les accompagner jusqu'à ce que leur bourreau soit effectivement appréhendé et sévèrement sanctionné par à dire des juges. Donc c'est ce que nous faisons comme travail. Donc c'est une structure à la fois politique et technique, mais essentiellement technique parce que nous, dans la politique de l'action de l'agence, nous privilégions en premier lieu la prévention, mais de manière systématique, nous allons effectivement veiller à ce que les statistiques en termes des poursuites et de condamnations soient plus élevées que les statistiques sur les autres aspects d'intervention de la traite.
Recevions Coucou Kiesse. Voilà, c'est par ici que nous bouclons ce magazine de promotion de vos droits et devoirs. Droits et citoyenneté vous a entretenu sur la répression de la traite des personnes en droit congolais. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.